Radio Vatican, France et Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée vendredi 30 juillet, notamment par le message des condoléances que le pape a adressé à la Compagnie de Jésus suite au décès du cardinal Albert Vanois. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale et en Algérie, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le Saint-Père a adressé vendredi 30 juillet un message de condoléances à la communauté jésuite San Pietro Canisio de Rome ainsi qu'à la Compagnie de Jésus tout entière après l'annonce du décès du cardinal Albert Vanois. Je pense avec gratitude à son travail intense de religieux zélé, fils spirituel de Saint Ignace, professeur expert, bibliste faisant autorité, recteur estimé de l'Institut biblique pontifical, collaborateur diligent et avisé de certains dicastères de la curie romaine. Je pense aussi à son amour pour le ministère de la prédication qu'il exerçait avec générosité, animé par un désir passionné de communiquer l'Évangile, a écrit François avant d'élever sa prière afin que le défunt cardinal soit accueilli dans la Jérusalem céleste. Le cardinal Vanois est l'un des trois ecclésiastiques de plus de 80 ans que, en considération des services qu'ils ont rendus à l'Église avec une fidélité exemplaire et un dévouement admirable, le pape émérite Benoît XVI avait élevé à la dignité de cardinal le qualifiant de grand exégète lors du consistoire du 24 mars 2006. Ces obsèques seront célébrées samedi 31 juillet à 11h par le cardinal Leonardo Sandri dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Avec son décès, le collège des cardinaux est désormais composé de 220 cardinaux, dont 123 électeurs et 97 non-électeurs. Les dirigeants du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, ont lancé un appel au peuple de Dieu sur le continent africain pour qu'il évite les divisions et s'efforce d'adopter une culture inclusive enracinée dans le Christ. Dans un message adressé au peuple de Dieu à l'occasion de la célébration les 29 juillet et 1er août de la journée du CHEAM 2021, les dirigeants du CHEAM déclarent: la journée du CHEAM nous rappelle notre unité avec Dieu et entre nous en Jésus-Christ qui transcende toutes nos différences et les place dans la bonne perspective. Nous lançons donc un appel passionné à tous les peuples d'Afrique et des îles pour qu'ils évitent tout ce qui nous divise et qu'ils s'imprègnent de tout ce qui met Dieu au premier plan dans nos vies et nourrit une vraie fraternité et une vraie sororité à travers le continent et les îles, déclare la direction du CHEAM au nom des évêques catholiques d'Afrique. Les responsables du symposium des évêques basé au Ghana encouragent les évêques membres à favoriser la communion et à interagir avec le document de Kampala, la publication de 100 pages portant les conclusions de l'année du jubilé d'or du CHEAM qui s'est tenue dans l'archidiocèse ougandais de Kampala. L'Église de Sierra Leone, par l'intermédiaire de sa branche caritative, demande des comptes sur la manière dont ce pays perçoit et dépense les taxes sur ses minéraux. Le directeur de Caritas Sierra Leone, le père Peter Conté, observe que le manque de transparence dans le secteur minier du pays ouvre la voie à la corruption et permet aux multinationales minières d'échapper au paiement des impôts. Le manque de transparence entourant la gestion des industries extractives en Sierra Leone fait de la corruption une option moins risquée et plus attrayante pour les fonctionnaires et les investisseurs, a déclaré le père Conté, qui est également directeur de Caritas Freetown. Au diocèse de Bassankusu, en République démocratique du Congo, l'évêque du diocèse voisin de Lissala, Mgr José Bernard Licolo, a ordonné 2 nouveaux diacres et 3 nouveaux prêtres. Pour plus de détails, suivez ce reportage.
L'événement a eu lieu au cours de la messe qu'il a présidée en la cathédrale Saint-Pierre et Paul le dimanche 18 juillet. Il s'agit pour le diaconat de Pierre Roger Ilonga et Jean-Baptiste Lokouli et pour le presbytérat des abbés Patrick Lokilo, Jean-Clovis Lokouli et du père Guilain Agbasoa, des missionnaires de Mill Hill. Mgr José Licolo a été ordonné évêque récemment à Lissala. Il est fils du terroir de Bassankusu et l'évêque de Bassankusu, Mgr Joseph Mokobe, a invité son frère qui a ainsi administré pour la première fois le sacrement de l'ordre. À l'homélie de la messe, Mgr Licolo a insisté sur les caractéristiques du bon berger développées par le Seigneur Jésus lui-même. Le diacre est par essence serviteur, avec une attention particulière aux pauvres, aux plus petits, aux marginalisés, a rappelé Mgr Licolo. Et aux ordinants prêtres, l'évêque de Lissala a dit « Par l'ordination sacrée, vous êtes institués pour annoncer la bonne nouvelle du salut, pour sanctifier le peuple des dieux et pour le gouverner. Avec un cœur sans partage, mettez-vous au service de l'évangile des dieux. Tout ce que vous êtes, votre intelligence, votre beauté, toutes vos aptitudes, tous vos talents sont désormais pour Dieu. » Mesurez bien la gravité de votre engagement et agissez en conséquence. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a reçu mardi 27 juillet au palais de la présidence à Abidjan Plateau Laurent Gbagbo, son prédécesseur, dans une ambiance détendue et fraternelle. Pour Mgr Ignace Bessy Dogbo, président de la conférence épiscopale ivoirienne, cette rencontre vient à point nommé. Il a souhaité que ce nouveau virage de la réconciliation amorcé par ces deux hommes politiques ne soit pas un mirage, qu'il aille de hauteur en hauteur jusqu'à arriver au sommet de la montagne où se trouve la paix pour tous.
C'était l'événement du jour dans une ambiance détendue, fraternelle et cordiale. Une rencontre, selon Mgr Ignace Bessy Dogbo, qui était longtemps attendue par les Ivoiriens pour espérer briser le mur de glace entre ces deux hommes politiques, décrisper l'atmosphère politique ainsi offrir une nouvelle chance à la paix et à la réconciliation dans le pays.
Je pense que ce geste qui a été posé de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, c'est un geste qui vient à point nommé pour permettre d'avancer. C'est un élément important dans ce processus de recherche acharnée de la réconciliation. Et pour nous, Église catholique, qui avons dégagé une vision d'une Église communion autonome au service de tous, nous ne pouvons que nous réjouir que ce processus, qui est déjà en cours depuis des années, ait atteint un stade important non négligeable.
Le président de la conférence épiscopale ivoirienne a souhaité cependant que cet important pas fait sur le chemin de la réconciliation ne soit pas une vue de l'esprit.
Et comme j'ai eu à le dire à l'ouverture d'une assemblée plénière, que le virage ne se tourne pas en mirage. Parce que le virage peut devenir mirage si on ne joue pas franc jeu. Donc je pense que c'est un geste important qui a été posé. Il faut que ces gestes se multiplient et qu'on aille de hauteur en hauteur jusqu'à arriver au sommet de la montagne où se trouve la paix pour tous.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au Burkina Faso, le magistrat Élisée Ouédraogo a été élu jeudi soir président de la Commission électorale nationale indépendante. Initialement prévu le 19 juillet, l'élection du nouveau bureau de la CENI avait été boycottée par l'opposition qui protestait contre le choix d'un autre candidat, Bonaventure Ouédraogo, jugé trop proche du parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Jeudi matin, le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a rencontré le chef de file de l'opposition Eddy Komboigo et le président de l'Alliance des partis de la majorité Simon Compaoré pour la mise en œuvre d'une CENI consensuelle. Nous avons convenu, majorité et opposition, de tout faire pour qu'en septembre, nous puissions résoudre l'ensemble des questions relatives à la CENI afin d'y apporter la confiance et la sérénité qui doit permettre un fonctionnement efficace de cette institution, a-t-il indiqué. En Côte d'Ivoire, la justice internationale abandonne les poursuites contre Simone Gbagbo. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre l'ex-première dame ivoirienne accusée de crimes contre l'humanité lors de la crise de 2010-2011 a été levé. La Chambre considère qu'il est approprié de décider que le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo cesse d'être effectif, écrit la Cour pénale internationale répondant à une demande du procureur dans une décision de 7 pages datée du 19 juillet et rendue publique jeudi soir. Simone Gbagbo était réclamée depuis 2012 par la Cour pénale internationale pour 4 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, autres actes inhumains et persécution commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Cette crise née du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle de 2010 face à Alassane Ouattara avait fait plus de 3000 morts. Le principal parti d'opposition en Guinée équatoriale a dénoncé l'attitude irresponsable du gouvernement qui a fermé son ambassade à Londres à la suite de sanctions imposées par le Royaume-Uni contre le fils du président et qui a mené une campagne d'hostilité contre la France après une décision de justice dans l'affaire des biens mal acquis, selon un communiqué rendu public vendredi. Le mouvement Convergence pour la démocratie sociale, un des rares partis d'opposition autorisés à s'exprimer mais dont les cadres font des séjours réguliers en prison, ne peut rester silencieux devant la gravité des faits et l'attitude irresponsable du gouvernement de Guinée équatoriale, a-t-il déclaré dans un communiqué. Théodoro Nguema Obiang Mangé, surnommé Théodorin, vice-président de ce pays, dirigé par son père depuis 42 ans, a été sanctionné le 23 juillet par Londres, notamment pour le détournement de fonds publics. Ces mesures prévoient un gel des avoirs et des interdictions d'entrée au Royaume-Uni. Les autorités équato-guinéennes ont annoncé lundi la fermeture de leur ambassade à Londres.
Radio Vatican, France et Afrique. Marie-Josée Moindo.
Au moins 19 personnes ont été tuées mercredi au Niger dans une attaque dans la zone de Banibangou, près de la frontière avec le Mali, où 14 civils avaient été tués dimanche par des hommes armés à moto. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement jeudi. Mercredi matin, le village de Dei Koukou, dans le département de Banibangou, a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés. Le bilan de cette attaque se présente comme suit. 19 morts, 3 blessés et un porté disparu, a détaillé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Plus tôt, un élu local avait indiqué que 18 personnes avaient été tuées et 4 blessées lors de cette attaque à 20 km de Banibangou, une zone où les civils sont régulièrement la cible de djihadistes présumés. Par ailleurs, plusieurs fonctionnaires nigériens ont été écroués mercredi soir pour leur implication présumée dans une affaire de détournement de 8 milliards de francs CFA, plus de 12 millions d'euros du trésor public. Mi-juillet, le président nigérien Mohamed Bazoum, élu en février, avait révélé avoir diligenté une inspection au trésor nigérien pour enquêter sur ces détournements de fonds. La police nigériane a ordonné jeudi l'ouverture d'une enquête sur un de ses chefs après qu'une célébrité nigériane des réseaux sociaux, actuellement jugée pour fraude aux États-Unis d'Amérique, eut affirmé qu'il était son complice. Le commissaire de police adjoint Abba Kyari a été mis en cause par l'influenceur nigérian Ramos Abbas, qui a plaidé coupable de blanchiment d'argent et d'autres crimes, selon des documents judiciaires américains. La police nigériane a déclaré avoir ordonné une enquête interne après avoir reçu un acte d'accusation du FBI contre M. Kyari. Les arnaques cybercriminelles ont coûté à ses victimes près de 24 millions de dollars, soit 20 millions d'euros au total, affirme le FBI. Ce Nigérian de 37 ans, affichant un style de vie luxueux sur les réseaux sociaux, a participé à un stratagème élaboré pour voler plus de 1 100 000 dollars américain à un homme d'affaires qui souhaitait financer la construction d'une école au Qatar, selon le FBI. L'influenceur a plaidé coupable dans cette affaire ainsi que pour plusieurs autres arnaques en ligne, ajoute l'agence américaine. L'accusé a affirmé avoir payé le commissaire de police Abba Kyari un pot de vin afin qu'il arrête un de ses anciens associés, Kelly Chibuzo Vincent. L'autorité algérienne de l'audiovisuel a exhorté les médias à éviter de se concentrer excessivement sur les nouvelles négatives dans leur couverture de la crise sanitaire au moment où l'Algérie connaît une flambée des cas de COVID-19 et une pénurie d'oxygène. Dans un communiqué, elle a invité mercredi soir les responsables des chaînes télévisées à s'acquitter de leur mission envers les téléspectateurs, en évitant de se concentrer excessivement sur les nouvelles négatives et les histoires tragiques liées à la contamination à la COVID-19. De telles informations ne peuvent que semer la crainte, la hantise et le désespoir au sein de la société et la situation devient encore plus difficile à traiter. L'autorité juge indispensable de respecter les règles professionnelles, faire preuve de pondération dans la couverture et d'exactitude dans la diffusion des informations ou des images, notamment lorsque les réseaux sociaux constituent une source principale d'information.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur l'actualité internationale de la semaine avec Françoise Niamien.
Dans le cadre de notre magazine, voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. La majorité des feux de forêt qui ravagent les côtes méditerranéennes de la Turquie, ayant fait au moins 4 morts et provoqué l'évacuation de dizaines de villages, ont été maîtrisés, ont annoncé vendredi les autorités turques. Environ 300 militaires seront déployés dans les rues de Sydney dans les prochains jours pour veiller au respect du confinement dont la plus grande ville australienne emploie à une flambée épidémique, ont annoncé vendredi les autorités. Israël accorde une extension de la zone de pêche autorisée au large de la bande de Gaza à partir de vendredi, quelques jours après des bombardements en réaction à des lanceurs de balles incendiaires depuis l'enclave palestinienne. La police hongkongaise a annoncé vendredi une enquête sur le fait que des spectateurs aient hué l'hymne chinois et scandé des slogans pro-hongkongais alors qu'ils regardaient les Jeux olympiques de Tokyo sur un écran géant dans un centre commercial. Et la Chine, qui est confrontée à un rebond épidémique qui menace sa politique du zéro cas de Covid. Le regain de contamination encore très limité touchait vendredi 5 provinces et la ville de Pékin. Ces cas ont leur épicentre dans la ville de Nankin. Dans un autre registre, la Chine a fait état jeudi d'un nouveau bilan d'au moins 99 morts lors des inondations de la semaine dernière dans le centre du pays, tandis que le régime communiste critiquaient les médias étrangers pour leur couverture. Les Philippines se préparent à reconfiner 13 millions de personnes dans la région de la capitale Manille dès la semaine prochaine, a annoncé vendredi le gouvernement qui tente de contenir une recrudescence dans le pays des cas liés au variant Delta du COVID-19. Un premier groupe d'Afghans ayant travaillé pour les États-Unis sont arrivés vendredi avec leur famille sur le sol américain, a annoncé le président Joe Biden, une opération visant à les protéger des représailles des talibans après le retrait des troupes internationales d'Afghanistan. Par ailleurs, les États-Unis d'Amérique vont continuer leur frappe aérienne contre les talibans si ceux-ci poursuivent l'offensive qu'ils mènent depuis début mai en Afghanistan, a averti dimanche à Kaboul le chef des opérations militaires américaines dans ce pays. Dans un autre registre, le président américain a pris une série de mesures pour doper la vaccination aux États-Unis, parmi lesquelles l'obligation pour des millions d'employés fédéraux soit d'être vaccinés, soit de se plier à une série de contraintes, selon un communiqué de la Maison-Blanche jeudi. 23 personnes, dont 8 civils, ont été tuées jeudi à Deira, dans les combats les plus violents ayant secoué cette province du sud de la Syrie depuis sa reconquête par le régime il y a 3 ans, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le Royaume-Uni risque de connaître des températures estivales dépassant les 45 degrés Celsius, même si le réchauffement climatique de la planète reste limité à 1,5 degrés Celsius, ont averti jeudi des météorologistes. L'ancien instituteur Pedro Castillo a prêté serment mercredi comme nouveau président du Pérou, disant souhaiter mettre fin à la corruption dans le pays et annonçant un projet de réforme constitutionnelle. Les relations entre Corée du Nord et Corée du Sud se sont contre toute attente réchauffées avec le rétablissement mardi des canaux de communication entre Pyongyang et Séoul, plus d'un an après la suspension, ainsi que des échanges de lettres entre leurs dirigeants. Au Liban, l'ex-premier ministre Najib Nikati a été chargé lundi de former un nouveau gouvernement après l'échec de ses 2 prédécesseurs à mettre en place un cabinet censé mener des réformes indispensables pour sortir le Liban de la pire crise socio-économique de son histoire. La Russie a bloqué lundi presque 50 sites web liés à l'opposant emprisonné Alexei Navalny au moment où les autorités accroissent leur pression contre l'opposition à l'approche des élections législatives de septembre. Le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par des fortes pluies de mousson en Inde s'est alourdi à au moins 159 morts dimanche selon les autorités indiennes.
Camille Moukosso présente la rubrique sur le sport.
Commençons notre rubrique sur les sports par la victoire de l'équipe masculine d'Afrique du Sud du hockey qui s'est imposée jeudi contre l'Allemagne 4-3 alors qu'elle était menée à la mi-temps. Après 3 défaites, c'est la première victoire des Sud-Africains qui conserve une chance de qualification historique pour les quarts de finale. Il faudra battre le Canada, déjà éliminé lors de la dernière journée. 20 athlètes, dont 14 Africains, ont été écartés des épreuves d'athlétisme 36 heures avant leur début. L'Éthiopie, le Kenya, le Maroc et surtout les Nigeria n'ont pas totalement respecté les règles en matière des contrôles antidopage à assurer l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Le Nigeria et les pays les plus impactés n'ayant pas répondu aux critères des tests antidopage de la règle 15 de la Fédération internationale d'athlétisme. Dans les faits, ces athlètes n'ont pas subi les 3 contrôles d'antidopage inopinés effectués hors compétition et au cours des 10 derniers mois. Malgré le timing plutôt cruel, la colère des athlètes nigérians semble plutôt viser leurs dirigeants. La superstar de l'athlétisme nigérian, Blessing Okabare, qui n'était pas concerné par cette décision, s'est fendu d'un Twitter agère sur les sujets. Le système sportif du Nigeria est tellement défectué et nous, les athlètes, nous sommes à la merci des dopages, a-t-il tweeté. Autre actualité sur les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est la mauvaise journée du jeudi 29 juillet pour la RD Congo. Les combattants congolais étaient attendus ces jeudis, mais David Chama Mwenenkabwe en boxe et Marie Brazer en judo n'ont pas réussi à s'imposer pour poursuivre leur tournoi. Après avoir passé le tour préliminaire dans la catégorie des moins de 75 kilos, poids moyen, le congolais David Chama a chuté lors du 8e de finale contre le boxeur haïtien Darrell Walsin. Marie Brazer a été éliminée par la Russe Alexandre Babentseva en 6e de finale du tournoi de judo des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, c'est jeudi 29 juillet, chez les moins de 78 kilos. La Congolaise, lassée du manque de soutien des autorités de la RD Congo, songe à faire une pause dans sa carrière de judokate. Chez les plus de 91 kilos poids super lourd, la Camerounaise Maxime Yangong, l'Algérien Chouibab et l'Égyptien Youri Mustapha Hafez ont été battus dès leur entrée en lice par décision unanime des juges. Cela a été le cas également pour la Burundaise Ornella Yanyamirimana dans la catégorie des moins de 51 kilos poids mouche. Les journées se suivent et se ressemblent pour les judo africains. Dans la catégorie des moins de 78 kilos, la Gabonaise Saria Myriam Mazouz n'a pas passé le premier tour. Chez les hommes, le seul représentant africain dans la catégorie des moins de 100 kilos, l'Égyptien Ramadan Darwish, a été éliminé dès le 8e de finale par les Georgiens Walam Lipartelyani après avoir battu les Pakistanais Sara lors de son premier combat. Changeons de sport pour parler cette fois-ci de l'escrime. Au lendemain de la belle 5e place des Égyptiens au sabre par équipe, leurs compatriotes féminines n'ont pas pu faire mieux que 8e et dernière au fleuret par équipe. Les Égyptiens se sont d'abord inclinés en quart de finale contre les Russes, future médaille d'or, avant de perdre face aux Japonaises et Hongroises un match de classement. L'équipe angolaise de handball n'y arrive pas à Tokyo, 3 matchs, 3 défaites. La dernière c'était ce jeudi contre le Pays-Bas, 37-28. Quart de finaliste aux Jeux Olympiques de 2016, l'Angola est le dernier de son groupe avant ses 2 dernières rencontres face au Japon et à la Corée du Sud. Les triplés champions d'Afrique devront les remporter pour espérer rééditer leur performance d'il y a 5 ans à Rio de Janeiro. Restons à Tokyo pour parler du rituel de motivation qui a fait polémique. Mardi 27 juillet, l'entraîneur allemand Claudio Pussa a secoué et giflé la judokate Martia Tados qui allait affronter la hongroise Sophie Osdaz en 16e de finale de moins de 63 kilos. Ces images largement diffusées sur les réseaux sociaux ont suscité de nombreuses réactions à tel point que le coach a été rappelé à l'ordre par la Fédération internationale des judo. Pourtant, ce rituel a été mis en place avec l'accord de l'athlète, l'objectif étant de la motiver avant de montrer sur les tatamis. Myriam Tados a également assuré qu'il n'y avait aucune forme de violence dans cette méthode de motivation. Double champion olympique en titre chez les plus de 100 kilos, Teddy Riner ne réalisera pas la passe de 3. Le Français a été battu en quart de finale à Tokyo par les Russes Tamerlan Bachev. Le Français a été sorti dès les quarts de finale. Vendredi 30 juillet. Après avoir abandonné son épreuve olympique pour des raisons psychologiques, l'américaine Simone Biles s'est officiellement retirée de la finale au concours général. L'athlète avait craqué durant le concours général par équipe en expliquant faire face à ses démons. En larmes, elle avait ensuite expliqué aux médias qu'elle devrait se concentrer sur sa santé mentale et son bien-être général.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboilo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
Ave, ave.